Amen. Eh bien, ce chant introduit bien ce que nous allons partager ce matin, parce qu'il dit « si tu es un vrai chrétien ». Est-ce que cela sous-entend qu'il puisse avoir de faux chrétiens ou des divers styles de chrétiens? Alors, je vais demander à Théo de bien vouloir envoyer du coup la vidéo. Enfin, le... Voilà. Alors, je vais vous apporter tout de suite une anecdote et puis après on commencera. Connaissez-vous cette anecdote? Un chrétien colle un poisson derrière sa voiture avec le texte suivant. Si vous êtes aussi chrétien, klaxonnez. Un jour, il est arrêté à un feu rouge interminable. La voiture qui s'arrête derrière lui est conduite par un chrétien qui, voyant l'autocollant, se dit « Super, un ami chrétien !» Du coup, il lui fait un petit coup de klaxon. Notre chrétien, de mauvaise humeur, ayant totalement oublié son autocollant, ouvre la fenêtre, se retourne et lui crie méchamment « Ça va pas ou quoi? Faut nettoyer vos lunettes, vous voyez pas que le feu est rouge ?» Ça, c'est le chrétien dans ses faiblesses et ses ratés. Cela nous arrive à tous d'avoir un mauvais témoignage, n'est-ce pas? Alors, ce que je vais vous partager ce matin ne vient pas complètement de moi parce que les illustrations qui sont commentées que je vais vous présenter sont celles d'un autre frère, un frère suisse qui s'appelle Philippe Aubert. Et je me suis permis d'y ajouter ma touche personnelle. Et donc, j'avais trouvé ce partage il y a un petit moment sur Internet, mais j'avais encore jamais utilisé ce partage. Mais donc, je veux rendre à César ce qui est à César. Donc, les illustrations et certains commentaires sont de Philippe Aubert, un frère suisse. Donc, jeudi et vendredi, j'ai suivi un séminaire sur la cohésion d'équipe au travail. Alors, la formatrice, elle nous a encouragés à nous exprimer, à réfléchir sur notre personnalité, nos fonctionnements, nos qualités, nos faiblesses, nos défauts. Et on a fait tout un tas d'exercices afin de mieux nous connaître déjà personnellement, de mieux connaître nos collègues et ainsi de mieux travailler ensemble. Alors, j'ai trouvé ce séminaire très intéressant et je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble en église parce qu'on travaille tous ensemble et on a un but commun, une mission qui nous est commune. Et donc, je pense que ce serait un exercice très intéressant à faire ici tous ensemble et un jour ou l'autre, peut-être qu'on le fera. Et en fait, ça nous permettra aussi de savoir justement, d'avoir une réflexion autour de qui on est, ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille ensemble, tout ça, etc. et comment on peut avancer. Et donc j'ai choisi ce partage aussi suite à ça. Et donc à travers le symbole du poisson, que vous allez voir par la suite, l'auteur il a sélectionné une série de petits dessins qui nous décrit l'identité et l'attitude du chrétien. En fait, l'exercice qu'il propose est intéressant, d'abord parce que les dessins sont humoristiques, et cela, ça va nous aider à nous remettre en question tout en gardant le sourire. Et aussi, c'est intéressant parce que ces dessins humoristiques sont un petit peu provocateurs. Et ils nous posent de vraies questions sur notre comportement de chrétien. On l'a chanté, « Si tu es un vrai chrétien ». Donc je nous propose d'examiner ces images et de nous poser deux questions. La première question, c'est « Lequel de ces poissons chrétiens me remet en question parce qu'il correspond à un côté de ma personnalité qui aurait besoin d'être amélioré ?» On cherche à mettre en évidence le côté négatif qui me concerne et sur lequel Dieu souhaite peut-être attirer mon attention. Deuxième question, lequel de ces poissons chrétiens correspond à un côté positif de ma personnalité que Dieu peut utiliser dans ma vie et par rapport auquel il veut m'encourager? Donc pour résumer, essayez d'identifier deux poissons, l'un négatif, l'autre positif qui pourrait vous correspondre. Et tout à l'heure, peut-être que ceux qui le désirent pourront nous dire quel poisson ils ont retenu. Question ? Oui, ça va arriver. On va les commenter. Tonton, il est impatient. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être effrayé par l'exercice, c'est simplement de le vivre sans jugement aucun. Hein, c'est dans la bonne humeur. Mais bon, il faut être authentique et honnête pour essayer de remédier à ce que Dieu souhaite réellement changer ou voir dans notre vie avec lui. Donc, le premier chrétien, c'est le chrétien poisson évangélique. Alors, le premier poisson, en fait, c'est le poisson que l'on voit tel qu'il est derrière les voitures. C'est suite à l'anecdote aussi que je vous ai dit. Alors, d'abord, le premier aspect négatif. On a l'impression que ce poisson nous montre un chrétien sans visage, neutre, inconnu, qui se cache derrière un logo. Mais Ce poisson discret est également un signe extraordinaire, puisque les chrétiens grecs, des temps de persécution, en temps de la persécution, l'utilisaient. Pour eux, le mot poisson, en grec ictus, avait un sens profond. I pour Iesus, donc Jésus, K pour Christos, Christ, T pour Théos, Dieu, U pour Ios, Fils, et S pour Soter, Sauveur. Soit Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Alors ce symbole du poisson était alors dessiné sur le sol par les premiers chrétiens et c'était un signe de ralliement. Et à l'époque, il fallait avoir du courage pour oser dessiner ce logo. En résumé, pour le côté négatif, notre témoignage est parfois déficient. Et du côté positif, nous avons le courage d'oser affirmer notre foi en public. Le deuxième poisson, c'est le chrétien sympathique. Oui, un chrétien sympathique, c'est formidable. Un chrétien ouvert, qui sait écouter et qui est tolérant, qui fait envie, qui est le sel de la terre, qui témoigne avec le sourire et une joie sincère. Un chrétien qui se lie d'amitié aussi avec des non-chrétiens. Oui, c'est super. Par contre, le chrétien qui est sympathique parce qu'il fait tout comme tout le monde, qui est toujours d'accord avec tout, qui est gentil mais qui n'ose pas exprimer un avis personnel, qui sourit mais ne manifeste pas d'amour concret, ça c'est nettement moins bien. Le chrétien exalté, lui, il fait peur. On s'en méfie parce que ses émotions sont toujours à fleur de peau. Il s'excite pour n'importe quoi. Il n'a de contact avec Dieu qu'à travers des manifestations émotionnelles exacerbées. Il a peur du silence et voudrait que tout le monde s'excite comme lui. D'un autre côté, le chrétien qui sait exprimer sa joie, qui ose manifester sa reconnaissance, qui est spontané, qui sait rire et s'amuser au bon moment, ça c'est un chrétien qu'il fait beau côtoyer. Le chrétien conservateur type A. Ce chrétien reste figé dans ses règles et ses lois. Il ne nous fait pas envie. On aimerait qu'il découvre que la grâce a remplacé la loi. Il est sincère, mais sa peur du changement, son amour des lois et sa facilité à juger autrui enlèvent toute fantaisie et tout charme à sa vie chrétienne. On a envie de le secouer, de lui fournir un ouvre-boîte pour qu'il découvre la liberté et la joie. Ça, c'est le mauvais conservatisme qu'on appelle légalisme. Au contraire, le chrétien conservateur type B est très différent. Il ne se renferme pas dans sa boîte, mais il défend des valeurs qui ne doivent pas être contestées. Pour les choses secondaires de la vie d'église, il est souple. Pour toutes sortes de détails pratiques, il laisse à chacun la liberté de faire comme ceci ou comme cela. Par exemple, cela lui est parfaitement égal que l'on soit baptisé dans un baptistère ou dans un lac. Qu'on utilise l'orgue ou la guitare ou le trombone pour accompagner les chants. Donc dans la pratique, il est très souple. Mais pour l'essentiel, il est conservateur intransigeant. Il ne veut pas que l'on touche aux bases bibliques. Pas question pour lui de douter de Jésus-Christ, que Jésus soit le Fils de Dieu ou qu'il soit ressuscité. Pour lui, on ne touche pas à des principes cruciaux comme le salut, le pardon des péchés, l'amour du Père, la vie éternelle, etc. Ça, c'est le bon conservatisme qui nous évite de frotter à tout vent de doctrine et de nous éloigner des vérités bibliques. Le chrétien conquérant. On se méfie de lui car il est agressif et nous attaque à coups de versets bibliques pour nous forcer à voir les choses comme lui. Il pense être le détenteur de la vérité et nous l'impose sans amour. Utiliser la Bible pour nous matraquer des vérités, non merci. Par contre, s'il s'agit d'un chrétien conquérant qui s'attaque à l'ennemi, qui entre dans le combat spirituel contre le mal, un chrétien qui se bat dans l'intercession et la prière fidèle pour conquérir les promesses que Dieu nous a faites, alors là, oui, qu'il est beau ce chrétien conquérant. Le chrétien du dimanche. Il faut bien se mettre d'accord sur le sens des mots. Il y a plusieurs définitions du chrétien du dimanche. Rien à voir avec celui qui fidèlement vient au culte chaque dimanche. Il s'agit plutôt de celui qui fait semblant d'être chrétien le dimanche et qui n'est pas du tout chrétien le reste de la semaine. Une autre définition, celui ou celle qui reste dans son bocal chrétien, qui ne connaît rien d'autre que sa communauté, rien d'autre que les rencontres du dimanche matin. Tout le reste ne l'intéresse pas. Il n'a aucun contact avec les non-chrétiens et le monde extérieur. Sur le plan positif, je n'ai rien trouvé. Le chrétien qui se donne. C'est beau, un chrétien qui se donne au Seigneur, qui se donne à son prochain, qui s'investit, qui rend service, qui grandit, qui devient un adulte spirituel et qui peut ainsi restituer, redistribuer autour de lui ce qu'il a reçu. Il est généreux, il ne compte pas et sa récompense sera grande dans le royaume. Mais comme le dessin le montre très bien, il faut faire attention. S'il exagère et n'a pas de discernement dans sa manière d'être généreux, il risque d'arriver rapidement au burn-out, à l'épuisement. Il est beau de se donner, mais il ne faut pas se mutiler. Il ne pourra continuer à donner à long terme que s'il est capable de se ressourcer et de recevoir ce dont il a besoin. Il a tout particulièrement besoin de soigner sa relation personnelle avec Dieu en prenant du temps pour la prière et pour la lecture de la Bible. Le chrétien qui ne veut pas se mouiller. Ce poisson volant reste toujours dans les airs, a des problèmes. C'est le chrétien qui dit « Moi, j'ai pas besoin d'église, pas besoin des autres chrétiens. Je lis ma Bible et je prie seul chez moi. Dieu me suffit. » Il ne risque pas de devenir missionnaire de la bonne nouvelle, puisqu'il est démissionnaire. Une île déserte lui convient très bien puisqu'il est individualiste. Son temps et son argent lui appartiennent et il ne les partage pas ou si peu. C'est le chrétien hors église, hors engagement. Aucun aspect positif, car un poisson ne peut être heureux en dehors de l'eau. Un chrétien ne peut pas être heureux seul dans son coin. Le chrétien partagé. Voilà un chrétien en bien mauvaise situation. Il est partagé, tiraillé. Il ne sait pas s'il est chrétien ou athée ou agnostique. En tout cas, il n'est ni pour ni contre, bien au contraire. Il se sent coupable. Il sait que Dieu existe, mais ne veut pas prendre le risque, en le rencontrant, de perdre les conforts et les joies de la vie. Il a peur de perdre sa liberté en s'engageant, peur de dépendre des autres. Il a peur de Dieu et reste à distance. De nouveau, aucun aspect positif, car s'il ne remédie pas rapidement à sa confusion et à ses hésitations, il sera bientôt trop tard. Le chrétien adolescent. Le chrétien adolescent dans une église, cela se remarque. Rien à voir avec son âge. Il peut avoir 20, 40 ou 60 ans. Peu importe son âge, il a des attitudes d'adolescent. Il est agressif, il conteste les autorités de l'église, il critique, il sait tout. Il s'acharne sur la paille qu'il trouve dans l'œil des membres de la communauté et ignore totalement la poutre qui se trouve dans le sien. Décrit de cette manière, on souhaite avoir le moins possible d'adolescents. Mais l'adolescent a aussi des côtés très positifs. Il est souvent enthousiaste, chaleureux, il se moque des conventions et n'a pas peur du ridicule. Il est remuant, il aime provoquer, il fait bouger les choses. On a besoin de ce type d'adolescent dans l'église, même si ce n'est pas toujours facile à gérer. Le chrétien homme d'affaires. Le chrétien homme d'affaires voit dans l'église un lieu idéal pour gagner de l'argent, pour prendre le pouvoir, pour diriger. Ce chrétien a besoin de découvrir qu'une église n'est ni une entreprise ni une banque. Il doit comprendre que le patron, c'est Dieu, que le chef du marketing, c'est le Saint-Esprit qui dirige, et que l'église est d'abord un lieu d'agapé, de partage plutôt que de rendement, un lieu d'échange et d'amour fraternel plutôt qu'un lieu de profit. Le jour où il comprendra cela, il enlèvera sa cravate et s'intéressera aux besoins de ceux qui l'entourent. Le chrétien ami de Dieu. Attention, Dieu n'est pas une machine à sous dans laquelle on glisse une pièce ou une prière pour obtenir ce qui nous convient. Dieu n'est pas à disposition pour assouvir nos caprices et nous permettre de nous comporter en enfant gâté. Ceci dit, le dessein reste tout à fait valable. Heureux l'homme qui a Dieu pour ami. En effet, Dieu protège, bénit, encourage, aime, nourrit, soutient, fortifie, renouvelle celui qui se confie en lui. Mais pour être son ami, il faut passer par Jésus-Christ et lui donner notre vie. Ensuite, nous sommes pardonnés, puis Dieu nous adopte. Nous entrons alors dans la famille de Dieu, et dès ce moment, nous sommes sous sa protection. Le chrétien compromis. Le chrétien que voilà aime tout ce qui est nouveau. Il aime surtout ce qui est douteux et dangereux. Il aime frôler les limites et prendre des risques. C'est pour cela qu'il touche à tout. Pourquoi ne pas profiter aussi de ce qui vient d'ailleurs, nous dit-il. Il faut avoir l'esprit ouvert, tolérant. Un petit horoscope par-ci, une petite amulette par-là, une petite méditation transcendantale pour vous relaxer, quelques cartes à tirer pour voir votre avenir, un guérisseur pour soulager votre souffrance, etc. Tout ça n'a jamais fait de mal à personne, croit-il. Convaincu de son courage, il mord à pleines dents jusqu'au jour où il est accroché par son pire ennemi. À nouveau, aucun côté positif. Et dernière image, le faux chrétien. Le faux chrétien, comme Obélix et Astérix, est tombé dans la marmite lorsqu'il était petit. Il a toujours été à l'église, toujours fait comme le reste de la famille, il a suivi l'école du dimanche, il a fait son catéchisme. Tout le monde pense qu'il est un chrétien authentique, lui aussi, jusqu'au jour où il fait une découverte désagréable et se dit « Mais je n'ai pas une foi, une vraie foi personnelle, je n'ai fait aucun choix par rapport à Dieu, je ne fais que suivre les autres. » Beaucoup ont vécu cette expérience et ont réalisé qu'un jour, il faut décider librement, pour soi-même, ne plus se contenter de la loi familiale, mais prendre une décision personnelle. Bon, ça c'est pour après. Alors, voilà beaucoup d'idées qui ont été suggérées par ces petites images et cette bande dessinée. Et certaines vous auront peut-être touché plus que d'autres. Elles auront permis de faire un constat et de mieux répondre à la question « Quel chrétien est-ce que je suis aujourd'hui ?» Alors, l'exercice est intéressant et tout aussi, et des fois c'est même plus facile, je pense. On a tendance à le faire, enfin je crois en tout cas, moi c'est aussi comme ça que voilà. Mais on a tendance à voir dans ces images d'autres personnes. Donc on pense à d'autres personnes plutôt qu'à soi-même. Et donc du coup, des fois l'exercice pourrait être fait aussi comme ça, où on pourrait discuter avec les autres et se dire « Ah, moi j'ai vu ça en toi ». Mais l'idée c'est aussi de savoir aussi s'évaluer, s'auto-évaluer et réfléchir à soi personnellement, quel chrétien nous sommes aujourd'hui et quelle image on reflète. Donc personnellement, moi j'ai retenu le chrétien poisson évangélique parce que je n'ai pas de mal à affirmer ma chrétienté et à manifester ma foi en public. Et d'un autre côté, je suis un peu dans le compromis. C'est-à-dire que parfois je frôle les limites et je prends des risques. Une fois qu'on sait ça, eh bien Dieu peut travailler aussi sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas et enrichir ce qui fonctionne pour que du coup, ce qui ne fonctionne pas soit revu et retravaillé afin de pouvoir progresser avec le Seigneur. Mais ce constat, il ne suffit pas. Il faut aussi nous demander, quel chrétien est-ce que je souhaite devenir demain ? Et pour ça, il faut demander à Dieu de continuer à transformer nos vies afin que nous devenions des chrétiens à son image, à l'image de Dieu. C'est-à-dire des chrétiens qui progressent, qui font envie et qui apportent autour d'eux un bon témoignage. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de partager sur le poisson qu'il a retenu personnellement ? Ça peut être qu'un seul, ça peut être deux pour les deux critères, que ce soit positif ou négatif. Est-ce que quelqu'un a retenu un poisson ou a relevé un poisson personnellement ? Le conservatiste ?
Celui qui garde la parole de Dieu véritable.
Ouais. D'accord.
La bonne et la mauvaise version.
La bonne et la mauvaise version, du coup. Vous voulez que je vous le répète ? Donc, il y en a un qui est conservatiste et qui donc est plutôt légaliste. Et il y en a un qui est plutôt ouvert, qui ne s'enferme pas dans sa boîte, mais qui est intransigeant avec les choses de la parole de Dieu. Ok. Quelqu'un d'autre ? Ouais. 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 Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, il dégage deux aspects, un aspect positif et un aspect négatif. Et donc, du coup, ce n'est pas l'ensemble. C'est souvent, il y a un poisson dans lequel on dégage un aspect positif et on va prendre un autre poisson pour relever l'aspect négatif. Là, en fait, le chrétien, c'est le chrétien sympathique qui est ouvert, qui sait écouter, qui est tolérant, qui fait envie, qui sourit, qui a une joie sincère. C'est, voilà. Mais par contre, d'un autre côté, c'est un chrétien qui a du mal à s'affirmer, à donner son avis personnel et qui est plutôt, voilà, qui suit le mouvement, en fait. Et donc, du coup, qui voilà. Mais du coup, c'est pas, en fait, dans ces images, ce n'est pas forcément toute l'image qu'il faut prendre. Il y a une partie de l'image, etc. Et souvent, il y a la partie positive qui se dégage et une partie négative qui se dégage plutôt sur un autre poisson.
Et donc, il y avait aussi un autre avec les valeurs.
D'accord, le chrétien conservateur, alors, du coup.
Voilà.
D'accord. Je pense que, du coup, on est tous encouragés à être conservateurs. Parce que bien sûr, il y a des choses intransigeantes, il y a des choses avec lesquelles on peut pas contester dans la parole de Dieu. Donc on est tous amenés à l'être, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui portent ce critère davantage que d'autres, je pense. Mais c'est un caractère qu'on doit tous avoir en tant que chrétien, parce que c'est important justement, et la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est, et on peut pas en dévier, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait aussi nous partager le poisson qu'il a retenu? Non? Le chrétien homme d'affaires. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est notre dimension d'église aussi qui ne nous encourage pas dans ce sens et tout aussi, mais après quand on devient dans des grandes églises, etc., peut-être qu'il y a beaucoup d'afflux d'argent, etc. aussi, on a plus tendance à le faire que dans des petites églises comme les nôtres et tout aussi. Voilà, c'est pas. C'est moins évident, quoi. Ouais. Allez. Moi, je force personne. Si chacun veut s'exprimer, c'est volontaire, hein. Y a pas d'obligation. Et toi, Théo, qu'est-ce que tu as retenu comme poisson? Tu sais pas? Tu sais pas encore dire le critère qui te reflète le plus. Est-ce que tu es le chrétien adolescent? Non, j'ai pas non. Bah si, il y a l'enthousiasme, le côté chaleureux, voilà, il provoque. Il provoque ses grands-parents à parler et à partager ce qu'ils ont reçu. Mais on a besoin de ce genre d'adolescent justement dans l'église. Ouais. Ouais. Bon, moi, personnellement, j'en ai choisi deux, mais je pense qu'il y a certains traits aussi qui se retrouvent dans d'autres. Hein. C'est pas exhaustif, hein. C'est vraiment plutôt pour se donner. Voilà, une idée, et puis essayer du coup de voir aussi où est-ce que Dieu essaye de me parler au travers de mon attitude en tant que chrétien. Après, j'ai trouvé ça un petit peu, je ne savais pas comment ça allait être reçu, parce qu'en fait, du coup, c'est toujours difficile de dire qu'il y a des catégories de chrétiens un petit peu. Il n'y a pas des catégories de chrétiens, mais c'est vrai que quand on lit ces poissons et ces illustrations, on voit bien quand même qu'en fonction de nos vies, etc., et de nos de certains de nos caractères, nos critères, on se reflète dans un de ces poissons, quoi. Oui, ben non, sauf sauf le poisson volant là. J'avais fait un partage justement avec les jeunes aussi, justement, où on disait qu'un poisson, en fait, il ne peut pas vivre autrement que dans l'eau. Et c'était un symbole du chrétien et tout aussi, et de l'homme de manière générale. C'est-à-dire que comme on a été créé à l'image de Dieu, on ne peut pas vivre en dehors de Dieu. Donc si on sort un poisson, et donc là l'illustration voulait que le poisson soit jeté à terre, donc j'avais jeté mes poissons à terre, mes poissons rouges, et ça avait marqué Roman, je m'en souviens encore. Et donc du coup, en fait, en gros, c'était pour symboliser, oui, qu'une fois qu'ils sont à terre, ces poissons, qu'est-ce qu'ils vont devenir, en fait? Ils vont agoniser, ils vont mourir si personne ne se lève pour aller ramasser ces poissons et les remettre dans l'eau. Et donc c'est l'image aussi du chrétien évangélique qui va au-devant des gens pour partager cette bonne nouvelle aussi, du coup, pour dire de sauver ce poisson et que ce poisson puisse retrouver sa vraie liberté, c'est-à-dire de se trouver dans l'eau. Parce que bien souvent, on a l'impression que la Bible nous impose des choses, alors qu'en fait c'est la manière dont nous sommes créés qui nous impose ce que nous sommes. Le poisson a été créé pour vivre dans l'eau et en dehors de l'eau, il suffoque. C'est l'image que nous, chrétiens, nous, hommes, nous avons été créés à l'image de Dieu, créés par Dieu, et en dehors de Dieu, eh bien, il n'y a pas de vie parce qu'en fait, on suffoque. Et les chrétiens évangéliques, du coup, sont encouragés à aller au-devant des gens pour ramener, pour partager cette parole, sans être un conquérant et en matraquant ces vérités bibliques, mais du coup, en expliquant aux hommes que oui, nous sommes créés à l'image de Dieu et donc nous avons besoin de Dieu dans notre vie pour qu'on puisse s'épanouir. Et pour qu'on puisse respirer pleinement. Voilà, donc je finirai avec un passage dans 2 Corinthiens 5 au verset 19. Oui. Plus personne ne voulait réagir vis-à-vis de ces poissons? Non? Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur, il y avait d'autres choses aussi qui me venaient à l'esprit, mais nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes attachés, les serments sont attachés au cep, et donc du coup, on doit demeurer en Christ. Le Seigneur nous encourage à le servir et à regarder justement, à nous introspecter pour que du coup, nous puissions avancer avec le Seigneur et que nous puissions pratiquer les bonnes choses qu'il a prévues d'avance pour nous. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés pour lui, pour de bonnes œuvres. Et voilà, c'est ce que je voulais partager ce matin, alors qu'on puisse aussi des fois apprendre à regarder aussi et à avancer, à se dire, bah oui, quel chrétien je veux être demain. Et du coup, à se fixer cet objectif afin de pouvoir l'atteindre et de pouvoir aussi du coup partager ce que nous avons reçu et de faire venir d'autres âmes au Seigneur par l'intermédiaire de notre témoignage. Voilà. Je vais prier, on prendra un chant, puis après on aura un temps de prière communautaire.